pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. On va commencer par nous faire une petite tournée d'un certain nombre de villes de France par rapport à ce qui s'est passé sur la naissance de ce mouvement qu'on espère contre les retraites.
Est-ce que c'est un mouvement ? On en débattra dans la seconde partie de notre émission, mais en tous les cas, on a décidé de vous donner quelques points de vue de différentes villes qu'on a pu collecter ici ou là, et puis ensuite... on donnera notre opinion et notre avis sur ce qui est en train de se passer. Évidemment, on ne peut pas ne pas être content et satisfait des premières impressions. Mais pour le moment, ça reste qu'une impression. Mais tout ça, on va en débattre après. Et donc, on va écouter trois camarades qui nous parlent rapidement de ce qu'ils ont vécu ce jeudi, de leurs impressions, de leur état d'esprit. Des camarades, je dis dès à présent les villes, hein, mais on en parle dans les entretiens qu'on a. Donc tout d'abord Fabien de Lille, ensuite Alain de Limoges et Philippe de Saint-Nazaire qui vont nous raconter un peu leur manifestation et les quelques jours qui ont suivi ou qui ont précédé. Voilà. Alors allons-y, voyons voir si ça fonctionne.
Bon Fabien, toi tu es à Lille ? Et donc, tu bosses dans l'éducation nationale et donc, tu étais dans la manif du 19. Bah déjà, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'importance de cette manifestation, son ambiance et puis qu'est-ce qu'il y avait comme type de manifestants ?
Yes. Donc je pense comme partout en France, c'était une manif massive. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Sur le chiffrage, c'est dur parce que c'est toujours compliqué au niveau. Donc les flics ils disent 15 000, on était plus. On est autour de 20 000, entre 20 000 et 25 000, ça dépend un peu des comptages. Mais en tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes. Des gens qui ont poireauté une heure et demie avant que la manif parte. Donc ça veut dire que c'était pas mal. Pas mal fréquenté. Au niveau de l'ambiance, c'était beaucoup de gens, donc une ambiance, on va dire, les gens étaient contents d'être dans la rue. Après, alors moi j'ai pas pu faire tout, remonter toute la manif, parce qu'il y avait tellement de monde. Je suis resté un petit peu à la porte de Paris, qui est le départ de la manif. Après, je suis très vite parti marcher, parce qu'il faisait froid, avec les collègues. Donc on est resté un peu avec la CGT et après j'ai voulu aller voir un peu devant le cortège pour voir ce qu'on appelle le cortège de tête, voir un peu l'ambiance. C'était une manif où les syndicats étaient très présents, CGT en tête, CFDT aussi pas mal, mais CGT beaucoup. Et au niveau ambiance, alors c'était assez sage. Moi je m'attendais à un truc un peu plus vénère. Notamment en cortège de tête, je me suis dit qu'il y allait avoir déjà des gens motivés pour pour scander des slogans ou faire un cortège un peu plus énergique, on va dire. Mais non, il y avait une ambiance à la fois beaucoup de monde, mais un peu bizarre. Donc, je ne sais pas comment trop encore analyser tout ça, mais ouais. Au niveau composition de la manif, pas mal de public, aussi beaucoup de privés. Là, moi, j'étais dans le cortège CGT, donc il y avait toutes les entreprises du coin qui étaient présentes. Et puis il y avait les pompiers aussi. Les pompiers étaient très, très représentés, notamment au cortège de tête, il y a pas mal de pompiers. Voilà un petit peu pour rapidement la composition d'une partie de la manif, parce qu'encore une fois, j'ai pas pu parcourir toute la manif.
Est-ce qu'il y avait une présence de gilets jaunes ou de gens que tu as pu rencontrer pendant le mouvement des gilets jaunes?
Ouais, il y a un petit noyau dur qui est toujours là. On les reconnaît toujours avec leurs gilets jaunes et puis ils aiment toujours le drapeau français, c'est rigolo. Donc ils étaient toujours là, les gilets jaunes. Alors c'est un petit noyau, hein, c'est vraiment une cinquantaine de personnes, mais autour de ces cinquantaines de personnes, il y a plein de gens. Ils sont partis devant, hein, donc la CGT les a laissés passer. De temps en temps, il y avait des moments où le service d'ordre CGT essayait de marquer un petit peu la frontière entre les deux cortèges, mais bon, comme d'habitude, les gens finalement, ils marchent vite et ils se retrouvent en tête de manif. Et donc il y avait une continuité entre le début de manif CGT et le cœur gilet jaune qui était un peu devant, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a eu des réunions ou des assemblées générales ou des moments de discussion avant et ou après la journée d'action, la journée de manifestation et la manifestation?
Alors avant, j'ai pas d'infos là-dessus. Les intersyndicales se sont réunis, c'est certain, au niveau des groupes de travail. Après manif, il y a eu deux initiatives. Il y a une initiative qui vient du collectif des précaires de Lille qui vient de se constituer et qui a fait notamment une action il y a quelques mois par rapport au revenu universel d'activité, on en parle en courant alternatif. Donc eux, ils ont fait une initiative d'assemblée générale. J'ai pas pu m'y rendre, je sais pas encore trop ce qui s'y est dit. Plutôt en forme AG de lutte, parce que c'est vrai que sur Lille, on avait un peu cette tradition-là de faire des AG de lutte après les manifs. Et il y avait aussi un autre collectif qui s'appelle l'Offensive, qui est une sorte de coopérative d'activité qui s'inspire pas mal de tout ce qui est municipalisme libertaire, qui eux, à leur local, faisaient un apéro AG post-manif. Mais c'est pas des grosses initiatives, quoi. Je pense pas qu'il y ait eu 200-300 personnes dans une salle pour discuter.
D'accord. Alors, toi, tu bosses dans l'éducation nationale, collège, on peut le dire, hein, Nina Simone, hein, à Oisem. Ça a donné quoi en termes de grévistes?
Alors, nous, on est dans un bahut Bac+, très mobilisé souvent, donc on était à 80% taux de grévistes.
Wow.
Ce qui est pas mal. Ce qui est plus, je crois qu'au niveau national, c'est 60-70%. Donc on est sur la fourchette haute, donc pas mal de collègues qui ont déjà fait grève mardi, parce qu'en fait mardi il y avait le SNES-FSU qui est le gros syndicat prof qui avait déjà appelé une journée d'action, donc il y avait déjà des collègues qui s'étaient arrêtés mardi. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire sur le bahut? On est un peu déçus. Vendredi, en allant au travail, c'était l'annonce de cette date, là, le 31, qui surprend tout le monde, parce qu'on se dit, c'est quand même bizarre d'attendre, là, il va se passer 10 jours, où finalement, c'est pas nous à l'initiative, qu'il y aura, je sais pas quoi encore, comme communication sur leur réforme, et donc on a été surpris un peu du calendrier syndical. Mais localement, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de se préparer avec les restes de 2019. Parce qu'en 2019, on avait été très mobilisés aussi sur la réforme des retraites. Et on avait notamment créé avec d'autres enseignants du coin, donc l'école primaire qui est à côté de chez nous, il y a un lycée aussi à côté de dans le quartier. Et on s'était constitué par WhatsApp pour communiquer. Là, on a rétabli les communications pour essayer de se voir et de se coordonner quand ça partira, quoi.
Et tu dirais qu'il y a de la motivation, il y a de l'enthousiasme, ou les gens décident de se bagarrer pour se bagarrer, pour entre guillemets faire leur devoir, ou il y a une envie d'en découdre, hein?
Alors, il y a une envie d'en découdre, peut-être pas, une envie de pas travailler jusqu'aux 64 ans, ça allait là, ouais, c'est clair que personne veut bosser jusqu'à 64. Après, plus en plus, il y a toujours ce truc de dire les grèves perlées, ça sert pas grand chose. On en a déjà eu plein, et on discute entre nous, ouais, de partir. Alors après, partir quand, comment, est-ce que c'est l'éducation nationale qui va partir en premier, je suis pas certain. Mais en tout cas, ouais, on essaye de discuter, en tout cas dans mon bahut et puis dans les bahuts autour, là, de voir quand ça partira, peut-être dans les raffineries ou peut-être ailleurs, et dans ce cas-là, partir. En tout cas, la reconductible, elle se discute, quoi.
D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un truc que tu pourrais rajouter sur la situation du Nord, ou quelque chose, une info intéressante que tu pourrais nous donner? Non. Non.
Il y a eu des petits blocages jeudi au CRT de l'Équin. L'Équin, c'est la zone logistique avec un aéroport à côté de Lille. Il y a eu une boîte qui a bloqué. J'ai pas plus d'infos, mais ce serait intéressant de voir. Et il y a à Fort Mardi, au niveau de Dunkerque, il y a un dépôt pétrolier qui était gréviste, et donc il y avait zéro camion qui est sorti du dépôt. Et eux, d'après leur communiqué, ils sont chauds pour aussi bloquer quand il faudrait, quoi.
Alain, à Limoges, très grosse mobilisation, quoi. Il y a eu beaucoup de...
Très grosse manifestation pour grosse mobilisation des grèves, pas mal, je pense, surtout dans les écoles, le secteur public, et puis aussi la plupart des grosses boîtes. Et puis, grosse manifestation, on n'avait pas vu ça depuis 95, disaient ceux qui étaient rodiennes en 95. Moi, j'étais ailleurs. voilà. Et ouais, c'était vraiment normalement, si on fait une moyenne par rapport à la... entre ce qu'a dit la police et ce que disaient les syndicats, on devrait être vers les 18-20 000
wow.
À Limoges, sans compter qu'au même moment, il y avait la manifestation de Saint-Junien, qui est traditionnellement Estienne Lune le matin, enfin on fait plutôt Limoges le matin, Saint-Junien
l'après-midi. Ouais.
Et à Saint-Junien, donc qui est à 30 km de Limoges, qui est une petite ville de 11 000 habitants, il y avait au même temps une manifestation qu'on peut évaluer quand même à plus de 1000 personnes, peut-être 1000-1500 personnes, parce que... en même temps.
D'accord. Ouais, donc on va dire c'est les plus grosses manifestations depuis 25 ans, quoi, depuis 30 ans dans le Limousin, et en plus avec des grèves. Est-ce que tu as remarqué s'il y avait des salariés du privé et...
salariés du privé, oui, surtout les grosses boîtes, bon, celles qui traditionnellement se bougent, hein, comme Le Grand,
ouais.
L'équipementier électrique, Valeo, Carrefour aussi un peu, le supermarché. Et par contre, là, je discutais avec un copain hier, puisqu'il y a eu une petite manif au samedi, donc un ancien gilet jaune là, qui me disait, et c'est un ancien de Bernice, le transporteur, qui est une filiale SNCF, mais une boîte privée, Bernice Géodis, c'est du groupe Géodis, et il disait, c'est la première fois que je les vois manifester depuis que je suis à la retraite, et puis même avant, quoi. C'est une boîte où ça ne se bougeait pas du tout, et donc il y avait eu un groupe important d'employés de Bernice. Voilà.
Oui, mais c'est ce qui a fait le nombre. Il n'est pas possible qu'il y ait eu autant de personnes dans la rue s'il n'y a pas eu une mobilisation importante des salariés du secteur privé. C'est pas possible que même un jour de congé, même deux heures, même une demi-journée. D'accord. Et est-ce que y avait également des gens que tu avais pu rencontrer dans le mouvement des Gilets jaunes et qui apparaissaient en tant que tels hein?
Alors, non. Il y a effectivement, j'ai reconnu des têtes et puis bon, même, voilà, je les ai retrouvés aussi hier, des gens qui sont des ex-Gilets jaunes, qui mettent plus le Gilet jaune qui viennent aux manifs, mais voilà, ils apparaissent pas en tant que groupe Gilets jaunes. Je ne sais pas s'il y en a eu. J'ai pas vu toute la manif, évidemment, puisque celle de jeudi, il y avait tellement de monde que j'ai pas tout vu. Mais à ma connaissance, non, il n'y en avait pas de Gilets okay. jaunes organisés dans la manif.
Ouais, avec cette étiquette-là, si on peut mettre ce mot-là derrière le mot. Comment tu qualifierais l'ambiance dans les discussions et dans les slogans, dans les apparitions politiques, les tracts, etc. Comment tu pourrais la caractériser?
Alors, l'ambiance très déterminée. Pas énormément d'apparitions politiques de tracts. Hein. Bon, j'ai pas vu... Alors, c'est vrai que j'étais au deux tiers à peu près de la manif, mais j'ai pas beaucoup navigué entre différents endroits, mais j'ai pas vu vraiment beaucoup de tracts, beaucoup de gens sans étiquette hein, aussi, bon, parce qu'il y avait évidemment tous les syndicats avec leur drapeau, leurs autocollants, etc. Mais une grosse proportion de gens non encartés, disons, qui pourtant sont déterminés. Voilà. Et voilà, quelques jeunes aussi. Hein, des lycéens, enfin c'est surtout ma fille qui les a rejoints et qui a fait son rapport là-dessus. Mais...
oui, et donc ouais, de toute façon ce que tu dis est partagé par les différents témoignages qu'on a pu avoir de ci de là. Est-ce que il y a eu des prises de parole et est-ce que tu as été au courant d'instances ou de lieux de discussion, de lieux de les gens ont pu se rencontrer en dehors de la manif pour éventuellement s'organiser ou au moins discuter?
Alors, malheureusement, ici, non, il ne semble pas qu'il y ait eu de prise de parole et de discussion en dehors. Je l'aurais su quand même hein, par les copains.
Tout à fait,
oui. S'il y avait eu, j'étais pas forcément au bon endroit au bon moment, mais bon, par exemple, le bruit. Enfin, l'annonce que la CGT appelait à une seconde mobilisation, donc hier, samedi, eh ben, ça a circulé quand même, même si ça n'a pas pris. Donc, je pense qu'il y aurait eu une assemblée interpro, etc., quelque chose du genre, des réunions, des discussions, qui aurait été appelé, je l'aurais su, je pense. Je quand assez de monde.
C'est clair. Alors oui, parce que ça, c'est quand même un point, on va dire, particulier de Limoges et du Limousin, c'est que tout de suite, la CGT a appelé à un deuxième jour, ou en tous les cas, un deuxième rassemblement, tout de suite. Alors, ça émane de quel secteur et uniquement de la CGT ou l'intersyndicale?
Alors, ça émane uniquement de la CGT, et je pense que c'est... enfin, moi, j'analyse ça parce que je les connais quand même
pas. Ouais, un petit peu, ouais.
Je pense que c'est un effet de politique interne à la CGT locale, c'est-à-dire que le bureau de l'UD et le secrétaire départemental, ils se font critiquer pour leur mollesse et qu'ils ont voulu prendre le contre-pied de leur critique interne et dire bon bah vous voyez nous on tient à foncer voilà on y va. Je pense que ça a beaucoup joué là-dessus. Voilà.
Oui, ça donne à manger aux aux contestataires. Si ça marche pas, c'est de leur faute. Et si ça marche, ça renforce la position des dirigeants. Donc, effectivement. Mais bon, ça, c'est quand même intéressant, quoi, parce que c'est un moment supplémentaire pour se rencontrer. Et peut-être que ça pouvait amener d'autres personnes. Comment tu vois la suite, toi, alors dans le Limousin d'une part, et puis on va faire appel à ta science du mouvement sur la suite.
Je pense que il y a une autre échéance qui a été prévue. Hein, la CGT a remis aussi localement une autre échéance qui est jeudi prochain. Donc on va être le 26, donc le jeudi 26, sous forme de retraite au flambeau. Bon, j'espère qu'ils vont faire une information massive pour dire, ce jeudi soir-là, voilà. Mais pour l'instant, je pense que c'est une décision unilatérale un peu de, c'est pareil, du bureau de l'UDCGT, et je suis pas sûr que je crains que ça ne soit pas forcément très suivi. Par contre, le fait que l'échéance suivante appelée au niveau national par l'intersyndicale soit le 31, je pense que ça correspond quand même un peu aux attentes des gens qui sont déterminés mais sont pas prêts à partir en grève illimitée tous les jours, etc. Et que ça peut être une forte mobilisation aussi le 31. Ça laisse le temps de souffler aux gens qui ne peuvent pas se mobiliser tous les jours. Voilà. J'espère que ça se passera comme ça.
C'est difficile parce que on a l'impression qu'il faudrait pas brusquer le mouvement qui n'existe pas, hein, pour le moment, qui a besoin de se construire, de se renforcer, et en même temps on a l'impression qu'il faudrait pas non plus entrer dans quelque chose. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que cette première journée, elle a rassuré, elle a montré de la détermination, et quelque part tout le monde était quand même content de voir qu'il y avait autant de monde, quoi.
Voilà, de voir qu'il y avait autant de monde, tout le monde s'est senti réconforté.
C'est ça.
Par l'ampleur du mouvement et a donc envie de continuer, même si c'est pas sur un rythme comme on a connu dans des grèves comme en 95 où il y avait des secteurs qui ont été mobilisés pendant des semaines. Voilà. Ouais.
Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter ou quelque chose qui serait intéressant à dire sur le Limousin en particulier, non?
Pas spécialement. Bon, il y a effectivement aussi, bon, faudrait que j'ai des échos un peu des autres villes, mais bon, il y a eu ce Guéret, ce qui était très important aussi. Je pense que bon, je pourrais citer les autres villes, puisque donc sur la Corrèze, il y a eu trois manifs le même jour, donc à Tulle et la préfecture, ouais. Et Brive et Ussel, les deux sous-préfectures. Donc c'est vrai que ça, c'est ça aussi qui est important, c'est que les manifestations aussi soient au plus près des gens, ça les conforte aussi pas mal, voilà.
Est-ce que, dernière question, est-ce que tu as pu voir des gens de l'agriculture, du secteur paysan?
Alors, dans la manif à Limoges, j'en ai vu un peu, parce que, bon, moi, étant dans une chorale révolutionnaire, j'en connais qui chantent aussi. mais il y avait effectivement, j'ai retrouvé sur une photo, parue dans la presse, qu'il y avait la Confédération paysanne, ouais, aussi à part.
Là, c'est intéressant. On a souligné dans quelques régions, notamment à forte composition sociologique rurale, des cortèges avec la Confédération paysanne et même quelques drapeaux de la FNSEA. Donc tout est possible, apparemment. Bon, voilà. Et ben ok. Merci Alain. À bientôt. Philippe, oui, alors, à Saint-Nazaire, jeudi, qu'est-ce que ça a donné en termes de nombre et en termes de composition, du cortège, s'il te plaît? Est-ce qu'il y avait des lycéens, il y avait un peu de jeunesse, qu'est-ce que évidemment Saint-Nazaire est une ville encore ouvrière avec le port et avec des grosses industries, donc forcément la composition sociologique des cortèges elle est assez particulière, mais est-ce qu'il y avait aussi des jeunes?
Alors, les lycéens sont intervenus après l'intersyndicale, hein, même s'ils n'étaient pas associés, mais c'est problème d'organisation. Hein, dans les villes universitaires, on se retrouve avec les organisations de jeunesse qui négocient avec les intersyndicales. L'intersyndicale fait place à une intervention de lycéens qui avait été programmée par un petit groupe un peu emprunté sur les mobilisations, mais c'était pas massif. Hein, les lycéens sont couchés de la journée pour aller se coucher, sachant que leur prof n'était pas là. Ils ont fait plutôt la grasse matinée et ils sont pas venus se faire toucher avec tout le monde. En revanche, ce qui était intéressant, c'est que il y avait également des boîtes très très diverses. Hein, il y avait des gens de Dofia qui viennent de subir un plan social, il y avait des gens d'agro-industrie type CAP là, qui fait dans l'agroalimentaire et qui l'a préparé. Enfin, il y avait plein de petites boîtes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les mobilisations syndicales qui étaient sur le toit.
D'accord. Alors, toi, ouais, tu as la chance. De travailler dans l'éducation nationale, donc tu peux te mettre en grève. Et tu as également, tu nous avais fait part de réunions préparatoires ou en tous les cas de tentatives de discussions collectives. Qu'est-ce que ça a donné? Comment tu pourrais les caractériser?
Alors, il y avait pour le secteur éducation une assemblée de grévistes l'après-midi. Là, par contre, c'était un peu, autant on était nombreux à être en grève et dans les cortèges, aussi bien du premier degré que du second degré le matin, autant là, j'ai été un peu décevante. Hein, on aurait espéré voir 150 personnes, on s'est retrouvé une quarantaine, et avec essentiellement les militants qu'on retrouve habituellement autour d'une intersyndicale qui fonctionne de façon pérenne entre Sud Éducation, la FSU et la CGT. Donc, petite déception sur cet AG. L'autre déception par rapport à l'AG, c'est pas que le nombre, hein, parce que bon, il y avait quand même des gens qui représentaient un panel au-delà de Saint-Nazaire, hein, au niveau des établissements mobilisés, et puis avec des nouvelles de fin de mobilisation. L'autre déception, c'est que il n'y a pas eu d'ouverture syndicale. On a vu des gens de FO, EDUC, qui sont venus à cet AG, mais personne de l'UNSA, personne de la CFDT.
d'appareil et de sommet et pas une volonté très combative au niveau de la base. C'est un peu le bilan qu'on faisait au niveau de l'Assemblée Générale. Donc c'est encore hésitant. Mais en même temps, le caractère massif de la mobilisation nous prête un peu l'optimisme.
Oui, mais pour le moment, il n'y a pas de 109 où il n'y a pas véritablement encore de mouvement, quoi. Il y a eu des gens qui ont répondu à un rendez-vous, mais on ne peut pas encore qualifier ça de mouvement, quoi.
Non, mais la quarantaine de gens qui étaient présents sont en train de donner les moyens d'essayer de mobiliser et de faire quelque chose sur le 31. Le conseil était assez unanime, hein, c'est pas des journées de grève à répétition ou des manifs le dimanche qui vont nous permettre d'avoir un rapport de force suffisant. On coupera pas une grève reconductible. Et donc, on ne savait pas encore au moment de l'AG que la manif serait le 31, on penserait qu'elle était le 26, on s'est fixé un point de rendez-vous la veille de 25 pour préparer une nouvelle AG le 26 et poser la question de la reconductible. Là, finalement, le 31, le fait qu'on ait 5 jours de plus pour bosser, ça va nous permettre de raviser les réseaux, de faire le tour des bahuts de préparer réellement des modalités d'une reconduction après le 31. D'autant plus que, notamment Sud Éducation a lancé un appel à partir du 31, que la CGT et FO sont pas loin derrière. Alors il y a les calendriers corporatifs qui les télescopent. Hein. La CGT mine énergie qui fait le gros dos et qui a un poids dans le coin, notamment la raffinerie de Donge, hein, qui est un secteur stratégique ou encore la centrale du Cordonnet, qui tourne à fond du fait de la réacteur nucléaire. Eux sont plutôt sur une optique de 6-7 février pour une reconductible, pour un arrêt de production. Nous, les vacances scolaires ici démarrent le 10, donc il faut qu'on parte bien avant l'échéance des vacances si on veut construire quelque chose. Ça, c'est des questions de coordination des calendriers.
Tout à fait. Saint-Nazaire a été un haut lieu de la mobilisation des Gilets jaunes, puisqu'on a eu le plaisir d'avoir une assemblée des assemblées, mais aussi nombreuses rencontres. Est-ce que tu as pu retrouver certaines personnes qui ont été actives durant ce mouvement? Est-ce qu'ils apparaissaient en tant que Gilets jaunes? Est-ce qu'ils avaient des propositions, des initiatives? Est-ce qu'ils étaient là déjà d'abord?
Alors, les Gilets jaunes, il y a toujours le petit groupe qui reste actif sur Saint-Nazaire qui était là, qui avait fait une mobilisation d'une certaine de personnes le samedi précédent, hein, dans le cadre de l'appel à remobilisation des Gilets jaunes. Après, les Gilets jaunes, c'est très, très distant et très séparé des mobilisations syndicales et des salariés.
D'accord.
Des interférences et puis des gens qui sont pourtant les deux. C'était une question de choix de casquette. Entre la cible syndicale, ils ont rangé les jaunes et clairement les gens ont choisi la chasuble syndicale et de jouer la boutique plutôt que le militaire. Mais cette dynamique des Gilets jaunes, ça c'est intéressant peut-être aussi à souligner. Autant en 2019, le fait que le mouvement contre la réforme de président des retraites arrivait en plein mouvement Gilets jaunes, qui était encore fort et actif, il y avait eu des AG de grévistes interpro, ce qui était très nouveau. Hein. La base avait réussi à impulser et à imposer ça aux directions syndicales. Cette année, on est loin de ce niveau de retrouvailles ou de travail en AG interpro. On est vraiment sur les AG de secteur professionnel.
Alain de Limoges nous a raconté qu'il y avait eu des mobilisations samedi et puis qu'il y avait d'autres dates qui étaient appelées localement avant le 31. Est-ce que tu as eu connaissance de ça sur le bassin nazérien?
Pas sur Saint-Nazaire.
Non.
Alors il y en a peut-être eu, mais j'ai rien vu passer.
Ok.
En revanche, il y avait quelque chose à Nantes où il y a eu 200 à 300 personnes, mais sans lien avec le mouvement syndical.
D'accord. Comment est-ce que tu vois les choses, toi, sur ta ville? Est-ce que tu sens quelque chose? Est-ce que y a des possibilités de construire justement ce mouvement ou enfin quel est ton sentiment, quoi? Quelles sont tes impressions?
Alors, à l'échelle de la ville, je serai un peu en difficulté pour répondre. Je sens les choses de façon assez optimiste sur le secteur éduc, parce que la coupe est pleine. Donc je pense qu'il y a la possibilité de construire quelque chose. Alors, il va falloir qu'on se donne les moyens militants de le faire, mais il y a une volonté réelle de combativité au moins des militants, et puis une oreille attentive des gens qui étaient mobilisés. Sur la ville, si je peux dire quand même, c'est que la référence, c'est 95. C'est-à-dire que les plus vieux, c'est reparti comme en 95, on va pas lâcher le morceau, et on va gagner, et on va pas être comme les Chinois.
Oui, mais ce que j'allais te répondre, c'est que la plupart des gens qui sont dans la rue, quand même, pour eux, 95 en activité salariée, bon, c'est une référence qui apparaît plus comme un mythe que comme une référence réelle et concrète, quoi.
Non, tu prends la tranche
Des 45
des vieux cinquantenaires comme moi. On était quand même un certain nombre à être là en 95. Et avoir aussi l'expérience de ce mouvement et d'avoir vu de quelle manière il fallait tenir pour réussir à ce que l'autre reste pas droit dans ses bottes. Donc on va tâcher d'en mettre la barre aussi.
Ok. Ok, ben écoute, c'est cool, hein, on espère vraiment, c'est tout le mal qu'on se souhaite, hein, si on arrive à faire quelque chose. On remettra d'ailleurs l'émission qu'on a fait sur les retraites la semaine dernière pour expliquer que ben, la grève, quand elle est reconductible et prolongée, ça suspend le quotidien et que tous ensemble, on est capable d'envisager d'imaginer une autre société, un autre futur, et ça, c'est plutôt cool.
Creux qui monte loin, grand plus fort à chaque nouvelle recrue. Ses crocs sont acérés, pris d'une blancheur nacrée. Ayez crainte car ils n'attendent qu'une chose, qu'on les libère de leur écrin. Nous vous cracherons nos cris coincés dans le gosier avec la poésie des bêtes de somme qui sortent de l'enclos. Nous bannirons les mots ramollis de pleurs et de sanglots, et ceux qui vous désigneront seront alors des plus grossiers. Et vous pourrez toujours nous jouer de la rhétorique. Seront pour vous la langue lourde et méthodique. Vous accuserez le coup d'une mémoire séculaire. L'évolution de ce monde ne sera pour vous plus jamais salutaire. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence, et t'auras beau prier. Préparez votre retraite. Une horde d'affamés s'amasse en bas de vos fenêtres. Et pour vous, à la cautériser l'endroit où croisse la tendresse. Oui, messieurs, c'est bien à vous qu'elle s'adresse. Son visage est d'un calme absolu et vous défie du fond des yeux d'un air ferme et résolu. Et là, vous comprenez trop tard que votre époque est révolue. Que si on en est là, c'est parce que vous l'avez voulu. La pluie inondera de larmes le pavé. Le vent de nos clameurs soufflera vos certitudes. Des coulées de dégoût engloutiront tous vos palais, charriés par ce torrent qui sort du lit de sa servitude. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence, et t'auras beau prier ton Dieu. Fini les tons contestés. descendants et les conseils paternalistes, vos sourires narquois et tous vos traits d'humour racistes. Vous ne pourrez plus vous afficher de dorures indécentes, vous gargariser de dividendes et jouir du fruit de vos rentes. Quand vous sonnerez la cloche, seul le silence vous répondra. Vous maudirez votre petit personnel et les traiterez d'ingrats. Et nous, nous les bâtards, les rebus et les déchets, nous nous danserons autour du grand bûcher de vos rêves déchus. Le soulèvement aura lieu. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence et t'auras beau prier ton Dieu. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence et t'auras beau.
Alors, en antenne, on était en train d'essayer de tirer une éventuelle typologie de ce qu'on a entendu, hein, qui, on va dire, illustre à peu près correctement ce qui nous a été rapporté aussi et ce qu'on a vécu pour ceux qui étaient à Reims et dans la région. Alors, évidemment, on le répète, donc un mouvement très décentralisé. Donc, ce qui fait qu'au plus près des gens, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, puisque d'une part les gens se connaissent, ils se recroisent et ils se recroisent encore, ils peuvent même en discuter le dimanche s'ils sont de la famille ou entre amis, entre copains ou au boulot, donc pour s'organiser c'est quand même un peu mieux. Deuxièmement, ça va aussi éventuellement empêcher, en tous les cas contrer, les initiatives politiciennes de tous les groupuscules qui pourraient vouloir tirer les marrons du feu, et évidemment les stratégies syndicales, en tous les cas à l'échelon national, parce que c'est plus difficile de contrôler 500, 200 points de rassemblement, 200 initiatives, plutôt qu'une seule à Paris.
Il y a plus de 200 là, je crois, qu'il y a 280.
Donc 280, ouais. Ouais. Donc pareil, hein, donc il y a déjà eu des petites choses qui ont été organisées dans la semaine. Et puis vraiment, ce qui est le plus important de notre point de vue, c'est la masse, hein, la massification, qui fait que il y a forcément eu des gens du privé qui à la fois ont fait grève ou en tous les cas se sont déplacés, donc des gens qui se sont reconnus dans ce rendez-vous, et c'est quelque part ce type de personne qui va pouvoir édifier le mouvement. C'est quand ils vont sortir, ouais, de la simple passivité du défilé en basculant dans la construction du mouvement, en tous les cas en se mettant en mouvement.
Alors il faut faire attention, parce que ce qui est quand même déterminant, c'est pas des millions de personnes dans la rue. D'ailleurs, le pouvoir s'est pas trompé. Aujourd'hui, il a dit clairement qu'il ne céderait pas. Donc je crois qu'il faut mettre la barre plus haut. Le problème, c'est comment mettre la barre plus haut sans perdre des gens. C'est pas du tout évident. C'est-à-dire qu'en 95, ça avait marché parce qu'il y avait les cheminots qui étaient moteurs. Il y a eu une grève de 3 semaines des cheminots qui a fait très mal au pouvoir, puisque il y avait plus personne qui pouvait circuler en train. Bon, ensuite, pour cette fois-ci, et alors en 2003, par exemple, le moteur, c'était les profs, les instits, les gens comme ça. Ça n'a pas été loin, puisque ça marche pas, parce que c'est pas l'économie déjà, hein, direct, hein. C'est des gens qui participent à la réalisation de la plus-value, c'est sûr. Mais ça s'arrête là, et en plus ils sont coincés par les examens, le bac. Là, c'était le bac en 2003. Là, on le voit bien. Il y a les vacances qui arrivent de février, et les vacances de février, c'est sur un mois, car au niveau national, hein, c'est-à-dire que c'est 15 jours dans une zone, puis après une semaine après, c'est 15 jours dans l'autre, et puis une semaine après encore, ça fait 15 jours dans la troisième zone. Quand vous y pensez, quand vous regardez bien, ça fait un mois. Donc pendant un mois, c'est sûr que l'éducation nationale ne va pas péter haut, quoi. C'est clair. Ensuite, il y a les mines. la production de comment dire de pétrole, etc. Enfin, pas la production, la circulation, ouais, le raffinage, etc. Là, effectivement, ça peut être déterminant. Si ces gens-là sont déterminés, ça peut être intéressant. Alors, le problème, c'est qu'il faut, je crois que les mines ont posé le problème de construire eux-mêmes la reconductible, ce qu'on appelle la reconductible. Alors, est-ce qu'il faut savoir au niveau de la reconductible, la CGT, il n'y a pas de problème, ça va suivre. Il faut aussi, par contre, Sud, évidemment. Par contre, la CDT, non. La CDT, il est clair que c'est d'ailleurs eux qui ont fait céder les autres et reporter du 26 au 31 la prochaine échéance. C'est la CDT, ça, qui a imposé ça aux autres syndicats. En plus, après le 31, il est certain, quel que soit le résultat, hein, il est certain que la CDT va faire en sorte de mobiliser les gens le week-end, de faire les manifs le samedi, pour pas gêner ceux qui travaillent et qui perdent du salaire. Je crois que ça va être la tactique de la CFDT.
Par contre, voir ouvrir un cycle de négociations.
C'est ça. Donc je pense que c'est leur problème. Et en plus, c'est un truc qui va droit dans le mur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas blocage de l'économie, s'il est certain qu'on l'a perdu. C'est évident que si effectivement l'État comprend qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, d'accord, mais enfin, il parle toujours. Il y a Coluche qui disait parler, ça veut rien dire. Enfin, je sais pas, tu t'es pas écouté. Enfin, pour être écouté par le pouvoir, surtout le pouvoir actuel, mais ça a toujours été le cas en France d'ailleurs, quel que soit le pouvoir, et surtout quand il était de droite, comme aujourd'hui, il est certain que pour gagner, il faut imposer des choses. Et imposer des choses, c'est effectivement toucher à l'économie.
Alors, la difficulté, quand tu parles de blocage, c'est que ce blocage, il peut être... Il n'y a pas besoin d'être des milliers pour bloquer certaines choses, mais il ne faut pas que ça soit le rôle d'un groupe ou d'une minorité qui se constituerait en avant-garde, à la fois pour servir de chair à répression et de supplétif aux syndicats pour assurer leur petite radicalité quand il faut et quand il faut pas, et puis de l'autre côté, qui se substituerait au mouvement, à la fois pour se faire plaisir et pour se donner des sensations fortes en disant « Waouh, super, on fait des trucs, quoi ». Ce qui est, à mon avis, le plus important et ce qui va être l'épaisseur de ce mouvement, si jamais il a lieu, c'est qu'elle touche à un point extrêmement important, c'est le travail. Et c'est qui décide de comment on travaille et jusqu'à quand on travaille. Et dans cette épaisseur-là, dans cette attaque-là, dans cette chose-là, on a clairement la dimension de la vie de chacun en tant que prolétaire et en tant que travailleur. Oui. Et faire grève, c'est quelque part remettre en concordance notre reflet de prolétaire et notre image de ce qu'on est. C'est-à-dire que on est clairement les adversaires d'une minorité qui décide avec des arguments bidons que la seule solution pour que le système tourne, c'est qu'on travaille plus, qu'on crève au boulot et qu'on soit mal payé.
Ouais,
au moins, sûr. La logique, elle est parfaitement claire. Et bien sûr ça touche à la retraite, mais ce n'est que la continuation de ce qu'il y avait eu au chômage, de la misérable augmentation du SMIC au début de cette année, de l'inflation, etc., etc. Et je pense que c'est vraiment ce biais-là qu'il faut travailler et qui va permettre aux gens de se rendre compte de ça.
Justement, il faudrait que dans ce mouvement, que ça soit plus centré que seulement sur les retraites. Il faudrait effectivement que ça soit centré sur les salaires. Car effectivement, s'il y a une augmentation des salaires, eh bien, il n'y aura pas trop de problèmes pour payer les retraites des gens. C'est évident. Surtout qu'il y a quelqu'un qui nous a fait part la chose suivante. Je lis un extrait de texte. En freinant les salaires, la part que le monde des patrons et des capitaux se prend n'a pas arrêté d'augmenter depuis 40 ans. Dans les années 80, quand 100 euros de richesse nouvelle étaient produites grâce au travail, il en revenait 29 au monde des patrons et des capitalistes. Maintenant, ils en prennent 37. Donc c'est clair, c'est-à-dire qu'effectivement, si on veut, à la place du pouvoir, résoudre ce problème, il faut que les salaires augmentent. Et là, effectivement, ça serait bien qu'il y ait vraiment autre chose que simplement l'histoire des 62 et des 64 ans.
Ça nous permet d'avoir aussi un débouché par le haut, mais ça nous permet aussi de rappeler les fondamentaux, hein, c'est-à-dire que la retraite, c'est du salaire, hein.
C'est un salaire différé.
Hein. C'est pas une pension, c'est pas quelque chose d'assurantiel. C'est pas de l'argent qu'on met de côté et qui est placé à 2% et qu'on touche après. Non, c'est intégré dans le salaire, mais on le perçoit pas tout de suite, on le perçoit après. Et c'est ça le fondement de la transformation salariale, notamment au cours de la décennie 45-55, c'est qu'on détache le salaire de l'activité. C'est-à-dire, même quand on n'est pas actif, même quand on ne produit pas, on perçoit un salaire. Et ça, évidemment, c'est insupportable pour le capitalisme, c'est insupportable pour le patron. Celui qui veut des sous, il doit rapporter des sous plus que ce qu'il ne coûte. Et si tu veux croûter, il faut que tu produises. Si tu ne croûtes pas, tu ne sers à rien. Voilà. Donc peut-être d'un côté la question des salaires qui permettrait un débouché, et de l'autre évidemment la question du travail. Qu'est-ce qu'on produit, qui décide de quoi on produit et pourquoi on le produit. Parce que on est quand même dans un truc de malade. L'année dernière, rappelons-le, on a vécu l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis qu'on mesure les températures. Certains d'entre nous ont pu faire le 31 en short, en t-shirt et en allant même se baigner. Qu'est-ce qui a été fait pendant les vœux du 31 par Macron et la présidence? C'est le travail, la valeur travail, les retraites. C'est le seul chose qui a été retenue de cette année. Ce système, quand même, cette organisation sociale, elle est néfaste pour nos corps, elle est néfaste pour nos esprits, et elle est néfaste pour ce qui nous entoure. Enfin, ça n'a plus à être démontré, quand même.
Bien sûr.
Quand on dit qu'il y a le droit à la protestation, quelle protestation on peut avoir contre une violence comme ça? Quelle protestation on peut avoir contre des gens qui décident de par le biais de la loi, par le simple biais d'un stylo et de l'écriture et par un pouvoir qui leur a été donné, en tous les cas prêté, d'une violence immense que peut représenter la prolongation de l'activité pour une personne qui a 58 et qu'on peut déjà plus, qui se rend compte qu'elle va devoir bosser 2 ans, qui va au boulot la boule au ventre, qui a mal à son corps.
Beaucoup de ces gens-là n'iront pas bosser, puisqu'ils n'en auront plus de boulot en question, et qu'en plus que ça a pour fonction de baisser finalement le montant de la retraite.
Oui, ou alors ils crèvent.
Effectivement, il y a ce problème-là du décès des gens qui sont usés, mais il y a aussi le fait que de toute façon, on s'en sortira jamais avec ce type de d'histoire, puisqu'on en est à 62-64, on va en être en 64, mais moi ce que je dis aussi, c'est que la retraite, c'est vraiment quelque chose, quand tu pars en retraite, c'est quelque chose qui est individualisé. Chacun a son problème de la retraite, chacun a son problème de compter ses trimestres de son côté, et effectivement tu t'aperçois que ce qui est important, c'est pas l'âge que tu as, c'est l'état dans lequel t'es au niveau de ta santé. C'est aussi, est-ce que tu as l'occasion de continuer à ton travail? Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas l'occasion. Ils sont licenciés, ou de toute façon, ils sont au chômage, ou alors ils sont en fin de droit. C'est ça aussi, ça va être la réalité. Et puis ensuite, le troisième point, c'est que beaucoup de gens, quand tu as la santé, que tu as du boulot, qu'est-ce que tu fais? Tu comptes tes trimestres? Et tu sais très bien que si tu veux avoir une pension à peu près convenable, il faut que tu aies le maximum de trimestres. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui partent en retraite à 60 déjà et aujourd'hui, à plus de 62 ans aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il leur faut les trimestres. Et là, on s'aperçoit que l'histoire des 62-64 ans, c'est important, mais c'est loin d'être le plus important. On est passé de 37 ans et demi pour le privé, en 93, à 40 ans. Ça a voulu être imposé en 95. Finalement, ça n'a pas pu. Il y a eu un mouvement qui a fait que le pouvoir a reculé. En 2003, le pouvoir a gagné en 2003 pour nous faire bosser 40 annuités. Ensuite, il y a eu l'histoire ça a été 2010, où alors là, on est passé progressivement beaucoup plus. Et on s'aperçoit que c'est la gauche, c'est Hollande et Ayrault, qui ont allongé la durée de cotisation vers les 43 années. On en est à 43 années, alors qu'on était parti à 37 ans et demi. Je crois que c'est important de regarder ces 43 années. On parle même déjà, pour ceux qui ont entre 18 ans et 20 ans, de 44 années. Bon, c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, dans 20 ans, auront les années en question. Et avec la précarité qui ne fait qu'augmenter, c'est clair que la journée, le taux plein, tu ne l'auras pas.
Jamais, c'est clair. Jamais. Bon, il nous reste à peine quelques secondes. Je vais juste avoir une pensée et une dédicace très, très, très forte pour Claude Guillon, qui a décidé de partir en grève générale et définitive le 19 janvier, et c'est pas pour rien qu'il a choisi ce jour-là. Claude est né en 1952, il avait 16 ans en 68 et il est jamais redescendu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y en a plein qui ne connaissent pas Claude Guillon, vous pouvez aller voir sur son blog ce qu'il écrivait. Et Claude est un personnage qui a toujours été présent dans les luttes sociales, qui avait un caractère assez particulier, un anarcho-perso situ, mais qui a toujours été un camarade, pour le coup en 95, avec une très belle plume, qui a été également un précurseur sur des études sur la Révolution française, notamment sur la place des femmes et des sans-culottes dans la Révolution française. Claude était malade, il a décidé de choisir de partir lui, de pas laisser la maladie gagner. Ça, c'est quand même quelque chose comme un dernier acte de liberté. Et c'est quelqu'un qui, moi, personnellement, va me manquer, parce que c'était vraiment un habitué des rendez-vous parisiens. Mais bon, c'est pas grave, hein, la lutte continue, et pour un Claude, rien que pour ça, on va essayer de faire un maximum de bruit, un maximum d'assemblée générale et de chantier pour ce mouvement. Voilà.
Bah, allez, on se quitte, puis on se retrouve la semaine prochaine.
Ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine, c'est Nicolas Garrigue à Montpellier, Canastule, à Toulouse. Bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51. Tonight the fire's gonna run on me. I